Comment voulez-vous que... je n'y repense pas? J'y suis toujours. Et je ne sais toujours pas comment je suis revenu. Il faut dire qu'à Auschwitz, moi je suis arrivé avec le dernier convoi de Drancy, où j'ai vu disparaître 300 enfants le soir de notre arrivée. Et vous savez, cette image des enfants qui s'éloignent, ça me poursuit.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Marche des sciences. Aujourd'hui, on scrute la mémoire et ses arcanes. La mémoire n'est pas seulement un objet des sciences sociales ou des seules sciences du vivant, elle est un tout à la croisée de nombreuses disciplines, histoire, philosophie, droit, neurosciences, anthropologie, neuropsychiatrie, psychanalyse et bien d'autres. Notre compréhension de la mémoire et de ses mécanismes peuvent s'éclairer d'un jour nouveau, encore faut-il avoir l'intuition et la volonté. La mémoire à la croisée des sciences est le défi que s'est lancé un historien connu pour ses travaux sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai nommé Denis Péchanski. Il a fait le pari que d'une double confrontation, transdisciplinaire et transprofessionnelle, devait naître une meilleure connaissance des phénomènes mémoriels. Histoire, mémoire et mémorialisation, sur ce terrain des memory studies, il a provoqué la naissance d'une recherche innovante, faite d'échanges, avec pour objectif de pénétrer les arcanes de la mémoire. Aussi, aujourd'hui, dans la Marche des sciences, en direct sur France Culture, nous vous invitons à entrer dans cette aventure des plus prometteuses, en compagnie de Denis Péchanski, directeur de recherche au CNRS, responsable du programme franco-américain Mémoire et mémorialisation. Il est également responsable de Matrice, équipement d'excellence, et il a dirigé la publication du livre Mémoire et mémorialisation, le volume 1, titré De l'absence à la représentation, est paru chez Hermann. Et avec nous également le neuroscientifique Yves Burneau, que l'on retrouve dans ce livre. Il est directeur de recherche à l'INSERM, au laboratoire d'imagerie fonctionnelle à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie. Cette première partie d'émission sera émaillée d'archives sonores de l'INA, choisies par Anaïs Morales et Sophie Rielland. Et puis en seconde partie d'émission, vers 14h48, après la chronique Livre Jeunesse de Catherine Donnet, nous serons en partenariat avec le magazine Pour la Science, et c'est Marion Thomas, maître de conférence en histoire des sciences et de la santé à la faculté de médecine de l'Université de Strasbourg, qui sera avec nous depuis nos studios de Strasbourg. Elle vient de signer un article intitulé « L'instinct maternel sous la Troisième République » dans le dernier numéro de Pour la Science, tout juste sorti en kiosque, et on verra avec elle cette histoire de l'utilisation des études naturalistes de l'époque dans les discours politiques. Mais tout de suite, sans plus attendre, mémoire et mémorialisation.
Votre attention, s'il vous plaît. Le train de la mémoire à destination d'Auschwitz partira à 7h de la voie 5.
Ce voyage-là m'est complètement sorti de la tête. Je vais avec mes petits-fils, deux de mes petits-fils, que je veux leur montrer qu'il faut qu'ils se battent pour que quelque chose comme ça ne se reproduise pas, et pour personne dans le monde. Parce que c'est inadmissible qu'il y a encore maintenant des guerres et des choses atroces, avec la télévision, qu'on peut voir tout ce qui s'est passé et que ça continue, je n'admets pas.
C'était un extrait d'une émission passée dans les nuits magnétiques le 1er juillet 1992, intitulée Auschwitz, aller-retour 1942-1992, une réalisation et une production de Jean Dev. Ce documentaire donc qui mettait en avant bien sûr Auschwitz, ce lieu hautement symbolique de la mémoire de la Shoah, et avec ce fameux train de la mémoire. Bonjour Denis Péchanski.
Bonjour.
Bonjour Yves Burneau.
Bonjour.
Il y a quelques années, on n'aurait pas forcément vraiment rassembler un historien et un neuroscientifique dans un studio pour parler de mémoire et de mémorialisation. Qu'est-ce qui a changé depuis ? En un mot, qu'est-ce que vous faites là, finalement, tous les deux rassemblés aujourd'hui ?
D'abord, ce qui a changé, ce n'est pas grand-chose, parce que je pense qu'en dehors de ce que nous sommes en train de faire, il n'y a pas grand monde qui envisage de mettre ensemble des personnes venues de disciplines si lointaines a priori. Donc, effectivement, à l'origine de cette entreprise, on a cette idée, ce postulat, qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la mémoire collective ou la mémoire sociale, peu importe le terme, si on ne prend pas en compte ce qui se passe dans le cerveau. Et réciproquement, tout ce qui est imagerie cérébrale montre qu'il est impossible de comprendre les dynamiques cérébrales de la mémoire si on ne prend pas en compte l'input du social. Donc, à partir de là, on se dit, on va mettre ensemble des neuroscientifiques, des neuropsychiatres, des historiens, des philosophes, des sociologues, des spécialistes de l'ingénierie, puisqu'on va essayer de faire de l'expérimentation. On fait bouillir tout ça, et puis on essaye de faire sortir quelque chose de neuf et d'explorer, parce que c'est quelque chose qui me vient cher, les frontières de la connaissance.
Donc finalement, c'est une initiative que vous avez prise, Denis Péchanski, de rassembler des chercheurs des sciences dures et des sciences molles, et finalement de convaincre aussi de la nécessité de mettre en place comme ça des pôles, notamment ou un pôle d'excellence pour travailler avec ces nouvelles technologies. En même temps, on peut juste rappeler peut-être que les historiens ou les scientifiques, enfin les chercheurs d'avant, travaillaient ensemble, mais il s'est passé quelque chose d'étrange peut-être dans l'histoire ou dans l'évolution de ces disciplines, c'est qu'on s'est séparés, il y a eu un renfermement sur soi. Du temps de Marc Bloch, on travaillait déjà avec les autres, main dans la main.
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, il y avait un dialogue, on va dire le premier âge des travaux sur la mémoire, avec Alvax, avec Marc Bloch, un peu plus tard avec Bastide, il y avait un dialogue avec les psychologues. Jean Delay a écrit un ouvrage extraordinaire sur les maladies de la mémoire en 42 au PUF, ce qui est original parce que dedans, il citait Bergson, Bloch, Alvax. Enfin bon, ça pouvait quand même interroger à un moment donné, mais manifestement, la censure allemande n'allait pas jusqu'à lire les bouquins de Delay. Mais il y avait donc ce dialogue assez rude parce qu'au bout du compte, Alvax refusait ou Marc Bloch a refusé d'aller au-delà. Mais il y avait ce dialogue. Et puis, cette deuxième révolution, on va dire, des memory studies, qui est venue de la France, autour de Pierre Nora et de ses lieux de mémoire, ou bien après, autour de Marie-Claire Lavabre, d'Henri Rousseau, tous ceux qui ont voulu travailler sur, on va dire, les moments traumatiques du grand XXe siècle, le syndrome de Vichy, le communisme, etc., la mémoire du communisme. Là, on a l'impression qu'il y a effectivement une clôture disciplinaire, un repli sur les sciences humaines et sociales, et même une discipline à l'intérieur des sciences humaines et sociales, soit l'histoire, soit la sociologie. Ça ne les empêche pas, d'ailleurs, individuellement, d'avoir une sympathie pour, par exemple, pour Marie-Claire Lavabre, Henri Rousseau, pour le dialogue avec des psychanalystes. Mais, bon, c'est jamais allé jusqu'au bout par refus d'associer ceux qui réfléchissent sur la psyché et ceux qui réfléchissent sur le social. Voilà. C'est de dire, nous, on réfléchit sur le social, on n'a pas les outils pour réfléchir sur la psyché. Donc, chacun fait son boulot,
et
ils font un très
là.
Bon boulot, ouais. Et puis c'est fini. Ils font un très bon boulot, nous aussi, et puis on s'arrête là. Alors qu'en fait, ce que je constate, c'est que depuis 6-7 ans, ça patine. Voilà. Donc c'était ça l'origine de mon interrogation. Ça patine, il faut trouver un moyen de dépasser ce qui peut apparaître comme un obstacle épistémologique.
Et de travailler ensemble et puis de mettre en commun tous ces savoirs pour faire avancer justement cette étude de l'objet mémoire. Yves Burneau, donc vous êtes retrouvé impliqué dans les séminaires, parce qu'on ne l'a pas dit, mais ce livre est quand même issu aussi de 3 années de séminaires. Il y a eu un colloque, donc un gros travail. Vous avez donc été convié à travailler comme ça avec d'autres scientifiques de d'autres disciplines.
Oui, et alors pour moi, la connaissance du cerveau humain, qui est mon sujet, on va dire, de base, demande à apprendre aussi comment le cerveau humain se comporte en société et comment il se comporte dans l'histoire. Et que cette connaissance, elle est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut tirer des enseignements de la biologie des choses très intéressantes au niveau du fonctionnement du cerveau humain, mais réciproquement, la façon dont le cerveau humain fonctionne en société et fonctionne dans l'histoire peut être aussi une source très importante pour essayer de comprendre les processus qu'on peut observer au niveau des cellules, au niveau des circuits cérébraux, au niveau de la cognition, etc. Donc je pense que la nouveauté, c'est aussi que chez les chercheurs en biologie de façon générale, en neurosciences, ceux qui travaillent en relation avec la clinique, il y a un besoin actuellement très important évidemment d'être spécialiste de son domaine, mais en même temps de pouvoir mettre ensemble les différents champs de connaissances pour avoir une connaissance beaucoup plus unifiée, pour avoir une connaissance qui va relier les différents résultats obtenus à différentes échelles, que ce soit les molécules, les protéines, les cellules, les circuits cérébraux, et maintenant avec l'imagerie cérébrale, donc aussi la connaissance des différents aspects de la cognition en relation avec cette imagerie. Donc il y a vraiment une recherche, je pense, très profonde chez les chercheurs en biologie, d'abord d'unifier leurs connaissances, et à partir de cette unification importante, d'aller vers les autres domaines et d'essayer de mieux comprendre. Tout le monde a soif de comprendre les humains, la façon dont ils se sont comportés, bien ou mal, quelles sont les raisons de ces comportements, est-ce qu'il y a des bases biologiques à ces comportements, est-ce qu'il y a des raisons particulières qui les ont poussés à agir d'une certaine façon. Par rapport à la mémoire, ce qui est très important, c'est de voir comment se construit la mémoire dans la société, comment on va produire des souvenirs, comment ces souvenirs vont jouer sur sa propre vie. Donc il y a tout un ensemble de questions qui naissent d'une volonté d'avoir une unité beaucoup plus grande dans le savoir. Et cette unification, on la voit très bien, en particulier dans les nouvelles générations.
Alors on voit au travers de votre livre « Mémoire et mémorialisation », donc vous avez dirigé Denis Péchanski, que ce sont plus les mémoires traumatiques, on va définir un petit peu tout ça, mais qui sont mises en avant. Donc il y a eu des pôles d'études, notamment donc la Seconde Guerre mondiale, et puis le 11 septembre. Je vous propose, avant d'aller plus loin, d'entendre un témoignage. C'est celui de Judy. C'était le 27 septembre 2001, une des victimes de l'attentat donc de septembre 2001, donc au micro de Benoît Colomba.
It's like a miracle. I feel blessed.
Je suis vraiment une miraculée. J'ai eu beaucoup de chance. Maintenant, je dois faire quelque chose de ma vie. Je suis une survivante. Les autres sont morts.
I teach yoga.
J'enseigne le yoga. Le yoga me rend plus fort. Ça me calme.
I just know what I went.
J'ai conscience des événements que j'ai vécus, mais je ne lis pas les journaux. Je ne regarde pas la télé.
The first night I had a nightmare.
La première nuit, j'ai fait des cauchemars. Je revoyais l'avion qui s'écrasait contre la deuxième tour. Une nuit à l'hôpital, alors que je dormais, j'ai cru entendre une énorme explosion dans mon sommeil. Mais ces derniers jours, ça va. Je me réveille la nuit, j'ai des insomnies, je tourne et retourne dans mon lit, mais ça, c'est plutôt à cause de mes blessures. En fait, c'est comme une renaissance. J'apprécie tout à sa juste valeur. On est dans le métro, boulot, dodo. On ne se rend pas compte à quel point la vie est fantastique, à quel point c'est merveilleux de respirer. Les gens m'appellent, me disent « Je suis content que tu sois toujours là. » Et je réponds « C'est bon d'entendre ta voix, c'est magnifique. »
Donc c'était le 27 septembre 2001, deux semaines à peu près après les événements du 11 septembre. Donc
vous voulez que je vous raconte une anecdote sur le 11 septembre? Parce que c'est un des points de départ de notre travail. On avait effectivement pris les deux événements comme événements pôles, 11 septembre 2001 et Deuxième Guerre mondiale. Et 11 septembre, tout simplement parce que le directeur du mémorial de Caen, Stéphane Grimaldi, vers 2004-2005, a décidé d'organiser une exposition sur 2001, 11 septembre 2001, au mémorial de Caen. Et ça a été de fait la première exposition hors États-Unis sur l'événement, et ça a été le point de départ, comme je suis président par ailleurs du conseil scientifique du mémorial de Caen, ça a été le point de départ de ce travail avec les professionnels des musées et avec les États-Unis. Mais c'est pas ça que je veux vous raconter. C'est parce que dans ces années de travail, là, on est tombé sur les archives rassemblées à Columbia, qui sont des témoignages récoltés par Marie-Marshall Clark sur le 11 septembre 2001. Et ce qu'il y a d'extraordinaire et de très intelligent, c'est que pour une partie entre ces personnes-là, elle les a interviewées juste après l'événement, comme la personne qui était interviewée là, puis 6 mois plus tard, puis 1 an plus tard. Et on a un mécanisme qui est passionnant à analyser, aussi bien pour les neuros, mais Yves Burnot pourra le dire mieux que moi, que pour les historiens, c'est la mécanique de la consolidation. C'est-à-dire que vous prenez le premier témoignage, c'est d'un flou total. Bon, voilà, 34e étage, oui, je crois, je sais même plus. Il y avait de la fumée partout, j'ai entendu du bruit, je suis descendu, il y avait des gens qui montaient. Puis en bas, il y avait des sirènes, ça venait de partout, je suis rentré chez moi. J'ai pris mon téléphone, oui, j'ai dû téléphoner à ma femme, forcément, et puis hop.
Oui, c'est bon. Un peu brouillé quand même,
voilà.
C'est ça.
Et puis un an plus tard, ça sera... Oui, alors j'étais avec Jim au 34e étage, on a fermé la porte parce qu'on s'imaginait qu'on allait pouvoir sauver nos disques durs, on est descendu, là on a vu les pompiers qui remontaient, ces pompiers, ces héros qui viennent nous sauver et qui sont à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme, on leur dit ne montez pas, ils montent, il y a un écroulement, ils disparaissent, je descends avec Jim, là en bas il me dit, je me tourne et je vois, hop, quelqu'un qui tombe du 30e étage, puis je vois arriver de la droite, les ambulances, de la gauche, les pompiers, et puis je prends première à droite, deuxième à gauche, je tombe chez moi, je téléphone à ma femme pour la rassurer et je dors 40 minutes.
Donc la question pour l'historien de savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le flou et la précision acquise.
J'exagère bien sûr, mais c'est quand même assez souvent ça, et tout simplement parce qu'il y a eu une interaction entre la mémoire individuelle et la mémoire sociale. C'est-à-dire que tout ce qui a été autour, aussi bien ce qui a été raconté par les autres que ce qui a été dit à la télévision, ce qu'on peut dire comme le grand récit, a nourri la construction individuelle de la mémoire. Et ça ne veut pas dire que c'est faux, parce que ça peut aussi avoir réveillé des choses qui ont existé, mais qui étaient enfouies au fond du cerveau et qui n'ont pas tout de suite percuté. Et donc, cette interaction-là entre l'individuel et le collectif qui est au cœur de nos interrogations.
Yves Burnot, alors les neurosciences, quels sont leurs apports dans ces études-là? Parce que quand on lit votre article qu'on retrouve dans le livre Mémoire et mémorialisation, on voit très bien qu'il y a une précision d'études, qu'on se rend compte qu'il y a des parties du cerveau qui permettent d'expliquer pourquoi on garde en mémoire, pourquoi on occulte, pourquoi on réagit de telle ou telle façon. Là, on entendait Judy qui avait l'air de bien se porter, on sait que d'autres témoins ont d'emblée eu le sentiment d'être morts et ont eu beaucoup de mal à avoir un retour à la vie tout en ayant été épargné. Il y a vraiment des façons différentes de réagir au traumatisme.
Oui, alors ce qu'on observe, c'est non seulement donc les différentes parties du cerveau et ce qu'elles peuvent faire, mais c'est aussi et surtout leurs interactions, la façon dont elles vont s'activer ensemble, dont elles vont évoluer ensemble. Et donc, par exemple, ce lien entre d'abord la mémoire individuelle et la mémoire sociale. On va le voir au niveau des ensembles de résultats sur l'activation cérébrale. Il y en a une qui est la mémoire individuelle, où il y a tout un ensemble de neurones, un ensemble de circuits cérébraux qui vont très clairement prendre, on va dire, l'histoire, notre histoire à chacun et les événements qu'on a vécus, et avec un aspect lié à tous les sens et lié aux émotions. Et cette mémoire-là, elle a un aspect de résonance très fort, c'est-à-dire que si au moment de la mémorisation, il y a eu l'activation précisément de régions qui vont être très importantes pour le réveil collectif, on va dire, pour l'activation collective. Et l'une qui a été très étudiée, c'est ce qu'on appelle donc l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est une structure cérébrale qui est particulièrement impliquée dans le réveil émotionnel, dans le fait d'avoir une tempête émotionnelle dans le cerveau. Et cette amygdale, en relation avec les autres parties du cerveau, va mémoriser précisément cette intensité émotionnelle. Et donc ensuite, au moment où il y a des indices, ou même s'il n'y a pas d'indices, cette mémoire va avoir tendance à se réveiller. Et quand elle se réveille avec toute l'intensité qu'elle a eue au moment où l'événement s'est passé. Et donc cette intensité de la mémoire, cet envahissement de la mémoire, c'est comme une vague qui envahit tout le cerveau, est lié à des circuits qui sont précisément des circuits cérébraux qui génèrent cette grande activation, cette grande vague collective. Et donc ça, on le connaît très bien dans tout ce qui va être lié précisément aux émotions, à la force des émotions. Donc c'est pas tellement telle ou telle émotion que la force globale de l'émotion.
Alors on a d'emblée envie de vous demander comment vous avez travaillé, comment vous en êtes arrivé à ces conclusions, c'est-à-dire que vous avez équipé des personnes de capteurs pour voilà, comment on sait ça aujourd'hui?
Alors c'est tout un champ de recherche très important. Il y a des milliers de chercheurs qui ont travaillé sur ces domaines. Ça a d'abord été des domaines obtenus, on peut dire, en neurosciences fondamentales. Et puis ensuite, donc, qui se sont beaucoup développés depuis une quinzaine d'années grâce à l'imagerie cérébrale, et donc où, avec en particulier l'intérêt de la psychiatrie, il y a eu énormément d'études sur précisément cet aspect d'activation très, très globale du cerveau à partir des circuits autour de l'amygdale. Et donc, il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été faites. Alors, comment maintenant on a cette connaissance? C'est pas tellement le fait de, et ça je voudrais insister là-dessus, de refaire telle ou telle expérience pour voir telle ou telle chose. C'est plutôt utiliser et mettre ensemble des très grands ensembles de résultats expérimentaux. Et je pense que dans le cadre du programme avec Denis, donc ce qu'on a fait qui est tout à fait nouveau, c'est plutôt que de se contenter, on va dire, de refaire une expérience particulière, c'est de se dire, est-ce qu'on ferait pas mieux d'aller chercher dans l'ensemble des expériences qui ont déjà été faites? Et donc de regarder quels sont les résultats, qu'est-ce qu'on connaît vraiment sur le cerveau. Et là, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un outil qui est totalement nouveau, ça s'appelle Karma, c'est un site qui va apparaître au mois de juin. Et ce site permet donc de lire automatiquement les articles d'imagerie, donc il y en a à peu près 10 000, et d'aller chercher dans tous ces articles d'imagerie quelles vont être les activations associées à un certain nombre de fonctions et de voir leurs liens. Par exemple, de regarder le lien qui a été trouvé donc dans toutes ces expériences entre la mémoire, l'émotion, et par exemple entre la mémoire, l'émotion et ce qu'on appelle donc le stress post-traumatique, la mémoire traumatisante, et de voir donc l'ensemble de ces résultats. Et là, c'est tout à fait caractéristique, c'est-à-dire on voit apparaître des réseaux donc qui sont le fruit de centaines d'expériences et qui montrent très clairement dans leurs interactions très directes, neuronales, le lien entre des circuits, par exemple tels que l'hippocampe qui est associé donc à la mémorisation des événements, l'amygdale qui est liée à cette résonance émotionnelle, et puis d'autres circuits qui vont, par exemple, comme le cortex singulaire antérieur, qui vont être très liés à tout ce qui concerne sa propre personnalité, donc en anglais le self. Et donc on voit cette interaction très forte, et qui plus est, et ça c'est quelque chose qui ressort très bien de ces études, on va dire, d'ensemble, c'est de voir que les circuits de l'émotion, les circuits de résonance de la mémoire, c'est des circuits qui sont très associés aux fonctions basiques, aux grandes régulations biologiques, à la faim, à la soif, à l'attachement, au sexe, et en fait tout autour de la région qui est l'hypothalamus, qui génère toutes les hormones. Donc il y a une sorte de circuit de base, qui est un circuit donc, moi j'appellerais résonant, qui est capable d'activer l'ensemble du cerveau, comme quand on a faim, très faim, ça va faire une grande vague qui va demander à tous les autres parties du cerveau de participer. Là, c'est pareil. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que tous ces circuits cérébraux peuvent se mettre au service de la mémoire ou peuvent s'activer de façon alors traumatisante parce que c'est une mémoire, justement, d'un événement traumatisant qui se réveille. Donc, ces circuits, on commence à bien les connaître et de voir que la mémoire humaine, de ce point de vue-là, est très particulière. C'est pas du tout la mémoire d'un ordinateur, c'est une mémoire très vivante.
Alors il y a donc ces dynamiques cérébrales que vous allez, Yves Burneau, nous décrire comme ça tout au long de l'émission, en fonction des documents aussi d'archives que je vais pouvoir vous présenter. Justement, autre document, parce que là, ça donne envie bien sûr de parler aussi du phénomène de résilience, hein, et puis de faire entrer Boris Cyrulnik, Denis Péchanski, dans notre émission. On l'écoute, Boris Cyrulnik, donner la définition de la résilience. C'était dans l'émission Alter Ego sur France Inter le 22 février 2001.
C'est un mot français qui est quotidiennement appliqué dans les milieux de la métallurgie. Mmh. Ça veut dire qu'un métal garde sa structure ou reprend sa structure, quelles que soient les pressions ou les coups du milieu. Donc ça sert de métaphore en psychologie ou en sciences sociales pour dire qu'une personne blessée peut reprendre son développement malgré un traumatisme de la vie, c'est-à-dire que sa vie ne s'arrête pas au traumatisme, il peut reprendre une autre forme de développement après le traumatisme.
Denis Péchanski, avec Boris Cyrulnik. D'ailleurs, je précise que vous avez donc écrit un entretien qui est paru, c'était à l'automne dernier, hein, c'est ça, je crois.
Oui.
Donc aux éditions Dolina, intitulé Boris Cyrulnik, tout simplement, un entretien avec Denis Péchanski, Mémoire et traumatisme, l'individu et la fabrique des grands récits. Donc on est en plein cœur de notre sujet aujourd'hui. Donc Boris Cyrulnik, bien sûr, on le convoque beaucoup sur cette question de la résilience, mais bien au-delà, dans le livre Mémoire et mémorialisation, il nous en apprend beaucoup sur la mémoire implicite, la mémoire explicite et les conséquences des traumatismes, justement.
Oui, je dois tout de suite dire, je suis un fan de Boris Cyrulnik, donc autant... Enfin, donc,
on l'aura un peu compris.
Je n'est pas forcément totalement objectif, mais c'est vrai que non seulement il pense bien, mais il parle bien, il s'exprime bien, il transmet bien. Donc, et il est disponible. Et il est d'une très grande gentillesse par ailleurs. Mais bon, on n'est pas là pour dire ça, forcément. Mais
il apporte beaucoup sur ces questions.
Voilà. Et
aussi,
par exemple, ouais, alors, ce qui m'intéressait, c'est effectivement de lui dire écoute, là, je vais t'interviewer, mais on ne va pas parler de résilience, même si, évidemment, ces mécanismes-là sont très intéressants. Et même si, au passage, on a bien compris, et malheureusement, on ne le comprend pas assez, que la résilience n'est pas du tout dans sa tête un mécanisme qui est quasiment systématique et obligatoire après un traumatisme. Ça marche, on va dire, dans 18-20% des cas. Hein. Donc ça, il le dit explicitement, mais malheureusement, c'est pas tout à fait la vision qu'on en donne quand on parle de ce qu'il dit de la résilience. Mais justement, je lui dis, écoute, moi j'aimerais bien que tu me parles de la mémoire et pas simplement des conséquences du trauma et des capacités à se reconstruire, à se dépasser après un trauma. Et donc on a eu cet entretien, de même qu'on a eu 2-3 séminaires avec lui tout au long de notre première partie de réflexion sur mémoire et mémorialisation. Et pour vous donner un exemple qui me frappe, parce qu'en entendant Yves, on voit bien qu'il y a des questions qui sont posées par des neuroscientifiques ou des neuropsychiatres qui nous interrogent. Alors quand Boris Cyrulnik, par exemple, me dit, une petite expérience, ça a été fait par Schechter il y a quelques années aux États-Unis, on te met une casserole sur la tête, hein, c'est le vocabulaire de Boris pour parler de... d'imagerie, et puis on te dit ben, parle-moi de ce que tu as fait il y a 8 jours. Tac, 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 il y a 7-8 secondes de flottement, et ça s'allume, les réseaux se connectent, et on voit en imagerie ce qui se passe. Bon. Puis après, on dit bon, à la même personne, maintenant tu vas nous dire ce que tu vas faire dans 8 jours, dans un an. Bah, 7-8 secondes, toujours le même temps de flottement, et ça s'allume, c'est exactement les mêmes zones. Bon, alors, quand vous dites à un historien que les zones de la mémoire sont les zones de l'anticipation, d'activation de l'anticipation, ça doit nous interroger obligatoirement. Je ne veux pas faire de mécanisme, évidemment, mais comme nous sommes historiens du très contemporain confrontés, et vous le savez bien, à la question du témoignage, face à un témoin, on doit tirer des conséquences du fait que les zones de l'anticipation sont les mêmes que les zones de la mémoire, ou à peu près, ou en tout cas, c'est un même tronc, on va dire, un tronc commun, et donc, et même plus qu'un tronc commun, puisque les réseaux sont assez proches, ce qui veut dire aussi, donc, que sans doute, le témoignage est une forme de futur antérieur, on se met dans le passé en fonction de son présent et en fonction de son horizon d'avenir. Et ça a forcément des conséquences sur la façon dont nous, historiens ou sociologues, nous devons nous saisir de ce qu'est un témoignage. Voilà des questions qui sont posées par des neuroscientifiques, qui sont cruciales pour l'historien. De même, la question qui a été posée par Yves sur l'amygdale, l'émotion, et puis le cortex singulaire, qui est un circuit qui est plutôt le circuit de la réflexion. Bon, voilà. Ça a quand même des conséquences aussi, par exemple, sur la façon dont on construit un musée mémorial. On n'en a pas encore parlé. Mais quand on voit l'espace de prévisualisation ou de préfiguration de ce que va être le musée 9/11 sur Ground Zero à New York. Bon, on rentre là-dedans. On a eu cette expérience avec Yves il y a 2-3 ans. On rentre dans cette pièce, on est confronté à un énorme écran, un mur écran avec des images qui passent en boucle de l'événement du 11 septembre. Rien sur l'avant, rien sur l'après. À gauche, on a une table où se trouvent les rapports essentiels hein, qui rendent compte de du 11 septembre. Évidemment, il n'y a personne sur ces bouquins-là. Mais en revanche, ils sont tous devant ces images et ils sont hébétés, ils sont sidérés. Il y a un phénomène de sidération. Je peux vous dire là que l'amygdala, ça fonctionne à plein. Et ils sortent de là en se disant « Oh là là, c'était extraordinaire !» Sauf qu'ils n'ont aucune clé d'intellection, aucune clé d'analyse de l'événement. Ils ne savent pas ce qui s'est passé avant, après. Ils ont été complètement submergés par l'émotion. Et c'est le résultat aussi d'une forme de mémorialisation, de représentation publique d'un événement. Bon, il est clair que toute personne qui construit un musée doit se poser la question de ce qu'il va faire de l'émotionnel et du cognitif.
Et on en reparle dans un instant, après cette petite pause musicale, Denis Péchanski, justement sur la façon dont ces recherches croisées ont pu changer aussi votre regard d'historien et de concepteur de musée.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps, et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien.
Il est 14h32, c'était Nino Ferrer, La Rua Madureira. Vous êtes sur France Culture, c'est la suite de La Marche des Sciences sur le thème de la mémoire, la croisée des sciences, avec en studio et en direct deux invités, Denis Péchanski, directeur de recherche au CNRS, historien qui a fait le pari d'une double confrontation transdisciplinaire et transprofessionnelle eh bien, devait naître, et pourquoi pas, et c'est en train de se passer, une meilleure connaissance des phénomènes mémoriels, et on lui doit le livre « Mémoire et mémorialisation, volume 1, de l'absence à la représentation » paru chez Hermann. Et à nos côtés également le neuroscientifique Yves Burnot que l'on retrouve dans ce livre. Je vous rappelle aussi qu'en seconde partie d'émission vers 14h48, dans le cadre de notre partenariat avec le magazine Pour la Science, Marion Thomas, maître de conférence en histoire des sciences et de la santé à la faculté de médecine de l'université de Strasbourg, sera avec nous en duplex de Strasbourg. Et on parlera avec elle de son article intitulé « L'instinct maternel sous la Troisième République » dans lequel elle montre comment les républicains ont puisé dans le règne animal et dans les études de biologistes des exemples en faveur du rôle, notamment nourricier, de la femme. Alors, mémoire et mémorialisation, depuis 14 heures, on en parle. Vous avez compris la richesse des échanges dans cette volonté de faire se rencontrer et discuter des chercheurs d'une même communauté scientifique, mais de disciplines différentes. Et c'est une recherche nouvelle qui révolutionne bien évidemment l'étude de la mémoire et de sa transmission aussi. Alors, en guise de justement transmission, on va écouter tout de suite le témoignage de la fille d'une victime de la Shoah. C'est toujours dans l'émission L'Énumanitique, Auschwitz aller-retour 1942-1992, un documentaire de Jean Dev diffusé sur France Culture le 1er juillet 1992.
Tout d'abord, je me souviens, étant toute petite, lorsqu'on s'est tous retrouvés, je n'ai pas connu mon père, hein, puisque il a été prisonnier 5 ans. Donc moi, je ne l'ai pas connu. Je l'ai connu à son retour. Et pour ma maman, j'ai entendu ses cris durant la nuit, ses cauchemars. C'est la seule chose. Bon, j'ai su qu'elle revenait d'un endroit terrible, mais j'étais trop petite, on ne m'a jamais rien dit. Et au fur et à mesure, bon, elle commence à me raconter des choses. Et j'apprends petit à petit certaines choses. Mais je ne veux pas non plus trop lui poser de questions, parce que je ne veux pas qu'elle revive ce cauchemar constamment. Et là, effectivement, pour ce voyage, bon, je n'ai pas dormi cette nuit. Hein. Ça, c'est une angoisse quand même familiale qui est revenue. Ça va rester dans notre mémoire collective. Et bon, je pense qu'au fur et à mesure que je me rapprochais de la date du départ, j'étais moi-même très tendue, très, très anxieuse, mon sommeil était perturbé. Bon, moi, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai vécu à travers toute cette mémoire collective.
Denis Péchanski, donc cette transmission et puis la question aussi de la façon de le faire et à quel âge aussi, tout ça, on le trouve bien sûr dans votre livre, peut-être une réaction à ce témoignage.
Ça fait écho. Je vais vous parler un peu d'ego-histoire, parce que quand vous allez vous coucher, quand vous êtes ado et que vous entendez un souffle qui vient, un hurlement qui vient du fin fond de la gorge, c'est pas des cris comme ça, mais voilà, c'était mon père en pleine nuit. Parce que bon, il n'était pas passé par les centres de mise à mort, il était passé par les camps de concentration, mais c'était également pas très sympathique. Et alors même qu'il y avait un discours qui était un discours de l'action, d'héroïsme, enfin bon, je pense que c'est une mémoire plus facile à gérer, il y avait aussi cette mémoire du camp. Voilà. Donc j'ai bien entendu ce qu'elle disait, effectivement. La question de la transmission va se poser, et très souvent c'est à la troisième génération, c'est-à-dire que c'est
le grand-père qui raconte, voilà, au petit-fils ou
petits-enfants, parce que le grand-père a essayé d'épargner souvent, ou la grand-mère a essayé d'épargner les enfants, et ce sont plutôt les petits-enfants qui vont réagir. Donc c'est maintenant, c'est depuis les années 80-90 qu'on a vu des porteurs de cette mémoire, qui souvent d'ailleurs n'ont rien compris à ce qui s'est passé, mais qui vont être les relais de cette histoire.
Et dans votre cas, donc votre père ne vous avait pas raconté dans le détail, mais vous avez été un porteur de mémoire en tant que témoin de ses réactions, de son propre comportement.
Oui,
aussi.
Oui, mais enfin, honnêtement, c'est plus facile d'être fils de héros que d'être fils de salaud, quoi. C'est plus facile à gérer. Et puis surtout, à partir du moment où un engagement est construit, non seulement évidemment l'itinéraire de la personne, mais construit aussi l'éducation de ses enfants. Et ça, c'est très intéressant, mais il faut en parler, les questions. Quand on parlait tout à l'heure de l'amygdala, on est du côté de l'émotion, et du cortex singulaire, on est du côté de l'action. On se retrouve, y compris dans le cerveau, des circuits différents. C'est quand même extraordinaire.
Yves Burnout.
Oui, et là, justement, donc, dans cette mémoire, il y a soit la mémoire qui est la mémoire de l'événement avec sa charge émotionnelle. Donc ça, c'est ce qui est la description de l'événement et ce que ça a fait sur le plan, justement, comment ça a pesé sur sa propre vie. Et puis, je pense qu'il y a une autre mémoire, et celle qui passe aussi, qui peut passer entre les générations, c'est celle, justement, dont parlait Denis, de l'engagement. C'est-à-dire la mémoire de la volonté, du pourquoi, de si son père s'est retrouvé dans un camp, c'était pas totalement par hasard. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi transmission d'une mémoire, d'une volonté d'agir d'une certaine façon. Et donc ça, c'est une deuxième composante justement de la transmission de la mémoire, moi qui me semble particulièrement importante à regarder. Surtout que maintenant, on est beaucoup plus dans l'émotionnel justement que dans cette volonté. Quand on regarde les circuits cérébraux pour parler. Donc on voit qu'il y a effectivement le circuit de l'amygdale, c'est un des circuits associés à la mémoire. Puis il y a un deuxième circuit justement qui est tout aussi important, qui est celui précisément de la volonté, de la motivation, de l'engagement, de la détermination à accomplir des actions dans des buts particuliers. Et les deux arrivent assez souvent d'ailleurs en compétition. Et on voit que si, par exemple, le circuit singulaire arrive à passer au-dessus du circuit de l'amygdale, arrive à l'inhiber, ce qui arrive, c'est beaucoup lié justement à ce que la personne a appris avant. Et donc, toute la construction qu'elle a eue de sa personnalité, en fait, active ces circuits-là et les rend particulièrement forts. Et je pense donc qu'il y a, au niveau de la réflexion sur la transmission de la mémoire, une réflexion très importante à avoir, en se disant ces circuits justement du cortex singulaire, ces circuits de la volonté, ces circuits de l'action qui sont capables d'être plus forts que les circuits de l'émotion, qui peuvent de temps en temps aller dans le même sens, mais si jamais il y a des effets compétitifs, ils peuvent aller au-delà, c'est-à-dire que, en particulier cette émotion envahissante, ils vont la surmonter. Et donc ces circuits de l'engagement, bon, c'est ceux des gens qui ont résisté, c'est ceux des pompiers face à l'action, c'est même si la situation est très dure, très difficile pour eux, très émotionnelle, ils vont réussir par rapport à ces apprentissages à aller au-delà. Et je pense que quand on parle donc de transmission de la mémoire, et on va arriver sûrement au musée, on arrive à l'éducation, c'est quelque chose d'absolument fondamental de ne pas simplement regarder la transmission des événements, mais regarder la transmission de la volonté.
Et justement, il nous reste 5 minutes, Denis Péchanski, pour évoquer quand même ce en quoi ce que vous avez initié peut révolutionner la mise en musée, parce que c'est en train de se passer. Je sais qu'à Caen, vous faites pas mal d'expériences très très intéressantes et intrigantes. Je crois que vous vous amusez carrément à équiper des volontaires de capteurs, de tout un système technique,
on
informatique.
S'amuse bien, hein.
Apparemment,
s'amuse bien,
oui.
Mais bon, en plus avec l'argent du contribuable, c'est vous
dire.
Ah
oui, donc voilà, on rigole encore plus alors.
C'est terrible. Non, mais on a eu la chance d'être tenu comme équipement d'excellence, oui. Qui était un des outils du Grand Emprunt, en février 2011. Et puis, à partir d'un projet qui a été développé, et l'un des axes de ce projet, c'est de comprendre les comportements des visiteurs de mémoriaux. Et pour comprendre les comportements des visiteurs de mémoriaux, on a mobilisé évidemment les sciences humaines et sociales, mais aussi les sciences du vivant, et les sciences de l'ingénierie. Ça aboutit en particulier à deux types d'expériences. Une première, c'est avec des capteurs électroniques qui arrosent l'ensemble du circuit, hein, du parcours, et c'est au Mémorial de Caen qu'on fait ces expériences pour l'instant. Eh bien, on peut savoir où se trouvent les gens et où ils vont, et évidemment de façon totalement anonyme, mais c'est quand même 400 000 visiteurs en, donc on aura des datas particulièrement intéressantes. Et puis, pour des volontaires, on a un système de eye tracking, c'est-à-dire on leur donne des lunettes, ma foi, qui sont assez classiques, sauf que, particularité, ils ont une caméra, micro-caméra qui regarde vers l'objet et une autre vers l'œil. Ce qui fait qu'on suit exactement le regard. Donc on saura exactement ce que la personne regarde, comment elle circule entre les différentes images, comment elles circulent entre les objets, les images animées, les images fixes, les textes, est-ce qu'ils lisent les textes, beaucoup ou pas, comment, sachant qu'il y a 15, 16, 20 documents qui leur sont offerts sur un mur, comment ils vont de l'un à l'autre, est-ce que c'est progressif, est-ce qu'ils vont piocher ici ou là, est-ce qu'ils vont, comment ils vont aller de l'image aux commentaires, enfin, et
est-ce
à
qu'on
la
peut
légende.
Analyser aussi la chaleur du corps humain, l'émotion qui est suscitée par telle ou telle image on...
Bah là, Yves Burnot nous a rajouté des choses en plus. Ah oui, en plus de ses lunettes.
Yves Burnot.
Oui, d'abord dans le regard, bon, il y a des éléments du regard qui sont très fortement liés à l'émotion. D'abord, ce que racontait Denis tout à l'heure sur la sidération, c'est-à-dire que quand les gens sont face à des images très émotionnelles, il y a un peu deux attitudes extrêmes. C'est soit de rester figé, de ne plus pouvoir bouger, c'est le cas par exemple des images des tours qui s'effondrent le 11 septembre, mais aussi, et on le voit au mémorial de Caen, de fuir les images qui sont trop dures, c'est-à-dire de ne absolument pas les regarder. Donc c'est un peu les deux extrêmes. Donc l'émotion va amener à des comportements sur l'exploration qui sont extrêmes, justement, soit d'être totalement sidéré, capté par l'image, soit de fuir totalement l'image. Et entre les deux, ben, y a toute la richesse qu'il peut y avoir, en particulier d'apprendre, d'acquérir de l'information. Donc ça, c'est une façon. Mais il y a aussi... ce qu'on fait aussi, c'est regarder la pupille, regarder la respiration, regarder l'électrocardiogramme qui donne aussi des informations sur cet effet émotionnel. Donc c'est pas pour opposer du tout justement les aspects cognitifs d'apprentissage et les aspects émotionnels, c'est surtout pour voir comment justement les aspects de connaissance peuvent être aidés par l'émotion et ne pas être trop limités justement par cet aspect émotionnel.
Mais vous imaginez à terme, oui, excusez-moi, mais imaginez à terme ce qu'on pourra faire, y compris en histoire de l'art. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est face à un Pollock, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on regarde un Picasso? Comment au Louvre on s'oriente dans une salle, dans telle salle ou dans telle autre? Qu'est-ce qu'on choisit? Je suis sûr que là, il y a des possibilités extraordinaires. Et ce qu'on est en train de faire en plus avec les psychologues de l'équipe de Stache, c'est aussi de le lier à des aspects à terme thérapeutiques. Donc, il y a vraiment des tas de pistes qui sont ouvertes par quelque chose qui, a priori, partait d'une interrogation épistémologique sur les questions de mémoire, ce qui est quand même original.
Mais on sent en tout cas qu'on est effectivement au début d'une étude tout à fait fructueuse. Et on va la suivre, Denis Péchanski. Vous reviendrez et l'un et l'autre pour nous raconter un petit peu tout ça et les résultats. Et vous pouvez nous dire que d'ici peu, on aura sur un site accès aussi à des photos, à des expériences.
Oui, on va présenter à partir du 10-12 avril, on va ouvrir un site matricememory.fr, matricememory lié évidemment. Et on va vous présenter cet équipement d'excellence et les premiers résultats de nos travaux.
Eh bien, comme ça, ce sera l'occasion de se revoir. Et moi, je renvoie aussi à votre livre « Mémoire et mémorialisation », volume 1 de l'absence à la représentation, paru chez Hermann. Merci à tous les deux, mais vous restez avec nous tout de suite. Un coup d'œil du côté des livres jeunesse sur ce thème du cerveau. Bonjour Catherine Donnet.
Bonjour Aurélie.
Alors sur le cerveau, vous avez fait un petit peu votre...
J'ai fait mon marché. Alors nous entendons souvent parler des méninges pour parler du cerveau. Eh bien, j'ai choisi aujourd'hui de m'attaquer à un gros morceau. Un album de près de 200 pages qui donnera du grain à moudre, je l'espère, au bon lecteur à partir de 9 ans. Son titre, Remue-Méninge, avec 250 tests pour muscler ton cerveau. Voilà, dans la collection d'Okeo chez Nathan. Comprendre comment des milliards de cellules commandent nos pensées, nos gestes, nos émotions, notre créativité, bien sûr, notre mémoire, grâce à la belle mécanique du cerveau, voilà de quoi allécher les lecteurs. Les enfants pourront parcourir le livre comme de véritables explorateurs et choisir leur centre d'intérêt, car il y a mille et une façons de s'en emparer. Sur des doubles pages très documentées, colorées, on nous offre des dessins et des encadrés pour faciliter la lecture dans une mise en page variée, agréable à la lecture, je dois le dire. Dans le lointain passé, on a souvent pensé que le cerveau des génies était différent de celui du commun des mortels. Eh bien, page 20-21, vous saurez comment il est possible de définir les caractéristiques majeures de ces génies d'hier et d'aujourd'hui. Puis, tout au long du livre, vous pourrez retrouver des informations sur les génies qui ont marqué l'histoire à travers les siècles, comme on en a déjà parlé, Léonard de Vinci, Darwin, Mozart pour les très connus, mais également Jean-François Champollion, décrypteur des hiéroglyphes, ou l'anglaise Mary Henning, géologue autodidacte, née en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle.
Je reconnais bien là, vous avez trouvé une femme quand même.
J'ai trouvé une femme, il fallait que je la place, Aurélie, bien entendu.
Catherine Donnet, typique.
Et la cerise sur le gâteau, Aurélie, pour découvrir les pouvoirs du cerveau et apprendre à le muscler, comme il est annoncé dans le titre, et donc booster la mémoire, des exercices à faire seul ou avec des amis, voire même en famille. Il est question d'association de nombres et d'images, de jeux de mots, un petit clin d'œil ici au Papou de France Culture, de labyrinthes, de tours de magie, de tests de personnalité. Je ne vais pas pouvoir tout énumérer, je préfère vous laisser les découvrir au fil de la lecture. Et pour ceux qui peuvent avoir accès à un ordinateur, à une webcam, un jeu en 3D est proposé.
On redonne le titre alors.
Eh bien, Remue Méninges avec 250 tests pour muscler ton cerveau, un livre paru chez Nathan.
Et je crois que vous aviez d'autres références à nous conseiller rapidement.
Alors, rapidement, donc, deux livres. À en perdre la tête, comprendre le cerveau en jouant avec l'art, de Marta Del Angelo et Ludovica Lumer, paru aux éditions du Pommier. Ça, c'est pour continuer dans le côté ludique. Mmh. Et puis un autre, plus pour la pédagogie, j'ai trouvé très très bien, Les petites cases de ma mémoire, pour aborder le côté médical, comment expliquer certaines choses qui se passent dans le cerveau et certaines maladies comme Alzheimer, donc aux enfants. Et ça, c'est très très bien. Un livre de Francis Eustache avec des illustrations d'Odile Gromère, toujours aux éditions du Pommier.
Merci Catherine. Et toutes les références à retrouver sur notre page La Marche des Sciences sur franceculture.fr. Et on poursuit La Marche, bien sûr, seconde partie. Place aujourd'hui à notre partenaire pour la science. Et en partenariat donc avec le magazine Pour la Science, nous avons choisi de rebondir sur un article signé Marion Thomas. Elle est maître de conférence en histoire des sciences et de la santé à la faculté de médecine de l'Université de Strasbourg. Et elle a écrit un livre intitulé « L'instinct maternel sous la Troisième République ». Un article qui montre le lien entre les positions politiques de républicains et puis les études de biologistes naturalistes. Bonjour Marion Thomas.
Bonjour.
Je précise que vous êtes en duplex de nos studios de Strasbourg. Oui. Alors, c'est une question qui se posait sous la Troisième République, c'est-à-dire l'instinct maternel était-il naturel ou mythique, c'est ça?
Oui, en fait, la question se pose dans l'œuvre de naturalistes qui ont des liens ou qui sont même engagés politiquement. Et ce que j'ai essayé de montrer dans cet article, hein, ce n'est pas un livre, c'est juste un article, c'est comment en fait il y a des transferts donc de savoirs scientifiques vers les savoirs politiques et mais dans les deux sens en fait. Comment en fait il y a des renforcements entre un discours qui se veut décrire une nature, un ordre naturel et une société nouvelle qui se met en place, donc la Troisième République où on construit un nouvel ordre politique. Donc les politiques ont besoin s'appuient sur le discours scientifique. Et les scientifiques eux-mêmes sont influencés donc par ces politiciens pour eux-mêmes peuvent exercer donc une fonction politique. Mmh. Hein, c'est le cas par exemple de Perrier ou de Giard qui est député socialiste. Et cette fonction politique va donc modifier leur perception de cette nature.
Est-ce qu'on peut dire que dans cet ordre politique donc qui se met en place, la plupart ont quand même pour ambition de garder la femme dans un rôle spécifique, c'est-à-dire la femme devait obéir à sa nature nourricière et d'éducatrice, assurer la reproduction pour le bien de la nation. C'était la majeure partie donc des personnes des politiques qui œuvraient un petit peu dans ce sens, on peut dire ça?
Oui, on peut le dire, notamment, c'est assez évident, donc dans l'œuvre de Perrier, hein, qui rédige cet ouvrage, donc La femme devant la biologie et les caractères généraux du sexe féminin, et qui, dès l'introduction, va critiquer ouvertement les féministes de son époque, qui cherchent donc à montrer que d'autres rôles sont possibles pour la femme en dehors de la maternité, de le soin du foyer et de leur mari. Donc,
et de Montpellier effectivement... qui s'habillait carrément sur le modèle des guêpes.
Voilà. Alors donc, il cherche dans un modèle effectivement très bas dans l'échelle de la nature. Donc, ces guêpes qui ont ces fonctions nourricières de gardienne de foyer et qui il y voit donc le modèle idéal de ce que doit être une femme. Sous la Troisième République, donc lui, il est vraiment effectivement dans la volonté de justifier donc un rôle nourricier maternel de la femme, et c'est le rôle qu'elle doit tenir en société. Donc, mais par contre, il y en a d'autres qui sont qui vont se détacher de cette image qui doit prédominante. Donc c'est le cas de Giard, donc qui lui va trouver
Alfred Giard, hein, qui il faut peut-être préciser qu'il était donc un homme de science, mais qui était aussi finalement influencé aussi par son rôle de député socialiste de la région de Valenciennes. Vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu en quoi il a été influencé peut-être et par rapport au vécu de cette région.
Alors en fait, c'est comme vous l'avez dit, un député donc socialiste qui est un homme de terrain qui va donc visiter ses corons miniers, qui a eu aussi des liens avec Zola, qu'il a rencontré lors de vacances et à qui il a permis donc l'entrée sur ces régions des corons d'Anzin, de Denain, donc dans le nord de la France, lui donner ce matériau pour construire Germinal. Donc on peut penser qu'il est vraiment très proche de ces population ouvrière et il voit des cas justement où parfois la maternité eh bien est quelque chose qui n'est pas du tout désiré, où ces femmes sont contraintes par cette maternité, et donc peut-être de là émerge donc cette idée que en fait l'enfant, enfin c'est un point sur lequel il insiste dans ses travaux scientifiques, l'enfant peut être conçu comme un parasite en fait, et ce n'est plus du tout la relation
idéale entre une mère
et ses enfants, voilà. Donc dans ce cas-là, Perrier se dit bon, il conserve cette image idéale d'une femme aimante, dévouée à ses enfants et qui se sacrifie, mais il met en valeur dans ses travaux scientifiques des cas qui ne correspondent pas du tout à cette cas de figure, et pour montrer que eh bien il y a une faille dans cette idée que l'instinct maternel serait quelque chose d'inné et que l'instinct maternel pourrait être équivalent uniquement à dévotion, sacrifice, abnégation de la femme.
Donc par exemple, alors cet Alfred Giard s'appuie sur quel animaux notamment pour avancer ses idées?
Alors lui aussi, il va chercher du côté des invertébrés, des animaux inférieurs, mais il va d'un seul coup faire un saut vers les mammifères et montrer en fait aussi que dans le cas de l'allaitement, la femme en fait a un certain plaisir dans cet allaitement, c'est une gêne pour elle cette montée de lait, et qu'elle a besoin, qu'elle instrumentalise en quelque sorte ses enfants pour se décharger de ce lait nourricier. Et voilà, il casse un peu l'image d'une femme en parfaite symbiose et montre une relation parasitaire, égoïste en fait, c'est le terme qu'il emploie. Oui. Hein, la femme se fait plaisir en allaitant son enfant. Et il va aussi donc décrire l'embryon comme, lorsqu'il est en stade de gestation, comme un parasite aussi du corps féminin. Donc des cas qui viennent, qui ne sont pas extrêmement, qui ne vont pas à nouveau porter l'image d'une
femme, mère au foyer, s'occupant des enfants, heureuse, voilà. Etc. Et il y a un autre personnage qu'on peut évoquer rapidement, puisqu'il nous reste une minute, c'est Jean-Henri Fabre, que vous convoquez aussi dans votre article, qui était ami de Victor Duruy, le ministre de l'Instruction publique sous Napoléon III, et qui avait réformé d'ailleurs l'enseignement primaire et secondaire. Et donc Jean-Henri Fabre, lui, était plutôt pour une éducation justement des jeunes femmes aussi, il y a cette question-là.
Oui, alors Jean-Henri Fabre, lui, c'est un personnage donc qui est plus âgé que Perrier et Giard, qui est avant, il a vécu très longtemps, donc il a quand même connu l'avènement de la Troisième République, mais il est quand même un naturaliste, on pourrait dire, du XVIIIe siècle, avec cet esprit de la théologie naturelle, d'une nature qui est assez miraculeuse. Il ne croit pas, par exemple, aux lois de la transformation des espèces, donc il est complètement différent des deux autres sur ce point-là, mais lui aussi va, et là c'est assez curieux, il va parler donc de ces araignées qui sont totalement dévouées, qui vont s'oublier pour leur progéniture, et d'un seul coup va montrer aussi des cas où bien la mère est complètement négligente et complètement elle peut se contenter d'une autre progéniture et donc avoir une insouciance qui là non plus n'est pas ne vient pas conforter cette image d'une bonne mère et d'une mère totalement dévouée.
Donc, merci
un personnage un peu Voilà.
Voilà, mais en tout cas, à travers ces trois cas, vous nous montrez, Marion Thomas, dans votre article, le lien entre théorie de l'instinct maternel sous la Troisième République et l'idéologie politique. Merci à vous. Et je rappelle qu'on peut retrouver votre article dans le dernier numéro du magazine Pour la Science et sur notre site, bien sûr. Et j'en profite aussi pour vous annoncer la tenue d'un colloque demain et après-demain, organisé par Philippe Soulier. C'est sur André Leroy-Gourand. L'homme, tout simplement. Le colloque est intitulé de cette façon et ça se passera au grand auditorium de l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art, de rue Vivienne à Paris, entrée gratuite et dans la limite des places disponibles. Et c'est la fin de la Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux et celles qui m'aident à préparer l'émission. Catherine Donnet, Anaï Morales, Sophie Riellan, sans oublier Antoine Villos pour la documentation musicale, Nathalie Salle à la réalisation, à la technique Alexandre Dang. Jeudi prochain, au menu, les 100 ans de Science et Vie, l'histoire de ce magazine phare. Auparavant, demain à 14h, vous avez rendez-vous avec Michel Alberganti pour Science Publique. Et puis dans quelques minutes, Antoine Garapon et le bien commun. Portez-vous bien.